Nous continuons notre exploration des différents territoires où la Fondation Culture et Diversité apporte un petit coup de pouce au destin afin d'infléchir la théorie de Pierre Bourdieu selon laquelle les classes dites supérieures se distingueraient en s'appropriant certaines pratiques culturelles. Connaître l'existence des Cagnes, de la Fémis, de l'École du Louvre, des concours à présenter, c'est précieux. Et franchir l'obstacle de la différence sociale, c'est un objectif avec le programme Égalité des chances.
Et aujourd'hui sur les docks, s'aventure à l'ENS d'architecture et du paysage de Bordeaux.
Oui Hervé, il s'est agi pour Marie-Annick Bellot de suivre des élèves détectés dans des lycées professionnels afin de passer une première épreuve pour participer à un stage avant de se préparer à un concours d'entrée très sélectif. S'ils réussissent, ils seront accompagnés dans leurs études par un professeur tuteur, un étudiant moniteur et un référent de la Fondation Culture et Diversité.
Fondation Culture et Diversité, le programme Égalité des chances en école d'architecture. Marie-Annick Bellot, Guillaume Baldi.
Ouais, donc là, on est dans l'ancien jardin des paysagistes, qui était avant en atelier 3, juste derrière nous. Maintenant, ils ont changé, mais voilà, ils ont laissé toutes les plantes, les arbres. Ouais, c'est pour ça qu'il y a tant de charme ici, et c'est vrai qu'on est au calme.
Ouais. Petit barbecue de temps en temps.
Ouais. Avec quelques bières, bien entendu.
L'école d'architecture de Bordeaux s'appelle en fait École d'architecture et de paysage de Bordeaux. Donc c'est une école qui a deux formations en une, hein, une formation d'architecture, une formation de paysage. Et donc les paysagistes utilisent l'espace extérieur comme un lieu d'expérimentation, d'expression de projets échelle 1. Donc on y retrouve comme ça voilà, des potagers, des espaces qui sont un peu spécifiques, un peu singuliers, qui sont des lieux d'expression de cette formation. À décrire l'école. L'école, c'est presque un monument. L'école, elle a quelques particularités. Sans doute que la plus singulière, c'est que l'espace extérieur est au moins aussi important que l'espace intérieur. C'est-à-dire que ce qui se passe entre les salles de cours est aussi structurant que ce qui se passe dans les salles de cours. Ce qui est assez éloigné des lieux de formation universitaire classique, on est plutôt sur des enveloppes, des contenants, hein, avec un dedans et un dehors très marqué. On est soit dedans, soit dehors, on n'est jamais dans les entre-deux. Dans cette école, il y a une grande majorité d'entre-deux. On est souvent couvert mais dehors ou dehors non couvert. On est dans une espèce de foisonnement d'espace assez voilà, qui fabrique des entre-deux, des hybrides. L'autre particularité, c'est que elle distingue deux natures d'espace, là pour le coup assez différenciées, des salles de cours, je veux dire relativement traditionnelles, ce qu'on appelle des ateliers, qui sont des grands volumes et qui sont des lieux qui, par leur proportion, leur nature, un peu comme un grand atelier de peinture, mettent en place une pédagogie qui est forcément différente de celle qui est induite par une salle de cours traditionnelle. C'est-à-dire que l'espace est plus partagé, on est davantage dans l'échange que dans la transmission verticale descendante de la connaissance.
L'École d'architecture et de paysage de Bordeaux a mis en place le programme Égalité des chances avec la Fondation Culture et Diversité. Issus de milieux géographiques et sociaux très variés, des élèves détectés dans les classes de ZEP, en particulier les lycées professionnels, passent une première sélection pour participer à un stage qui les sensibilise à la pratique de l'architecture. Ensuite, ils doivent réussir le concours d'entrée de l'école pour lequel ils ne bénéficient d'aucun quota. Une fois dans l'école, ils sont accompagnés dans leurs études par un professeur tuteur, un étudiant moniteur et un référent de la fondation. Qu'est-ce qu'on vient faire ?
On va rencontrer un étudiant. Un étudiant de première année qui nous attend. Enfin, les rendez-vous se font toutes les semaines pendant une demi-heure. Toujours au même endroit.
John Broder.
Il s'agit de rencontrer des élèves qui nous sont présentés comme des élèves qui sont atypiques. Atypiques au sens où ils ne sortent pas forcément de la filière générale et qui auraient quelques craintes ou quelques inadaptations à un environnement qui n'était pas prévu, disons, naturellement comme le leur. Comme dans le secondaire, il n'y a aucune approche de l'architecture. Donc l'architecture reste, disons, un mot chimère, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc ils arrivent ici avec des idées sans doute préconçues, des figures aussi d'architecture très prédéterminées. Donc c'est le choc. Au départ, c'est le choc, parce qu'on leur demande un certain nombre d'exercices, on leur demande, de s'engager dans un certain nombre d'enseignements, et ils ne sont pas prédisposés à cet enseignement. Donc il y a une forme, au départ, d'appétit et de résistance à la fois, ce qui fait que c'est véritablement une découverte. On sent dans cette école que le cycle de licence est véritablement un cycle de découverte. Moi, je pense que la motivation fait tout. C'est-à-dire, c'est ce que je dis souvent à des étudiants qui me sont adressés. Je leur demande, évidemment, je les cuisine un peu pour savoir où ils en sont. Mais je leur dis qu'il y a tout à l'école pour se parfaire. Le background est une chose. Lire, écrire, compter, bien entendu. Mais ce n'est pas la seule chose. Les motivations sont très importantes dans les études d'architecture. Sans motivation, on ne fait que le minimum, et le minimum, par définition, c'est médiocre. Et donc ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde est capable de ça. Je pense qu'au début des études d'architecture, il y a une évidence, il y a un manque flagrant d'observation. Des gens bien nés, par exemple, comme on dirait, des gens bien nés vous dessinent des choses qu'on ne ferait jamais. Mettre le toilette à côté de l'oreiller. On ne ferait jamais ça. Il faut être un sauvage pour faire des choses comme ça. Et puis, à l'opposé, quelqu'un qui est soi-disant pas bien né, sait parfaitement bien comment régler une entrée, les dispositions d'un accueil. Enfin, bon, c'est uniquement, comment dire, c'est de l'observation. C'est de l'observation, et puis si on ne sait pas, on se documente, tout simplement. Il y en a qui ne prennent pas le temps de se documenter parce qu'ils pensent que ça va aller. Vous savez, les différents états de médiocrité et d'excellence sont tout à fait répartis dans tous les camps. Ceux qui ont de l'avance, ce sont ceux qui maîtrisent la langue. Ça, c'est indiscutable. Ceux dont les familles, d'où qu'elles viennent d'ailleurs, ceux dans les familles où on parle, où on lit, où on commente l'actualité, où on mange, oserais-je dire, où on mange ensemble, où on fait tourner la parole, où les enfants parlent devant leurs parents, leurs frères et leurs sœurs. Les familles où la langue a toujours été importante, où la lecture a toujours été importante, ceux-là, en effet, ont une longueur d'avance. Ceux qui savent écrire, ceux qui savent traduire leurs sentiments, expliquer leurs sentiments, ceux qui savent le rédiger convenablement, ceux-là ont de l'avance. Bien entendu, parce que l'architecture est avant tout narrative. Donc si vous êtes dépourvu de mots, que voulez-vous transmettre ? Il faut savoir s'expliquer. Donc ceux qui savent s'expliquer ont de l'avance. D'où qu'ils viennent d'ailleurs. Le grand facteur de leur stabilité, disons de leur réussite à l'école, c'est les moniteurs. Les moniteurs font un travail formidable. Parce qu'ils les voient beaucoup plus souvent que nous. Nous sommes là plutôt pour remettre en perspective les études. Pour leur dire que s'il y a des échecs dans un domaine, c'est pas grave, ça peut se corriger, que l'objectif c'est la licence, et ensuite après la licence c'est le diplôme, et que les choses se mettront en ordre progressivement. Donc notre rôle n'est pas secondaire, je dirais pas secondaire, mais le rôle des moniteurs est capital.
Ah mais tiens, mais voilà. Vous avez vu
Non mais genre en gros nous on fera le PowerPoint, c'est s'il y a deux trois d'autres qu'on n'a pas fait.
Ça a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale avec la base sous-marine qui est à côté. Et du coup ouais j'avais eu l'idée de reprendre un peu les containers vu que les radoubs c'est en lien avec la mer.
Ouais.
Et du coup j'avais eu l'idée de prendre un container, représenterait en gros un espace pour une personne. Mmh. Et après pourquoi pas les assembler justement pour faire des dortoirs, donc du coup pour plusieurs personnes, ou très bien assembler ces containers pour créer des espaces pour manger, pour sanitaire, ce genre de choses.
D'accord. Je pense que ouais, le plus important maintenant, c'est trouver un concept, quelque chose qui va mener ton idée de A à Z. Et sur un lieu tel que celui-ci, il faut vraiment un concept très fort. Ça peut être quelque chose de très fin, ça peut être quelque chose de très, très démonstratif. Il faut que ce soit fort pour répondre à la force du lieu. Et ça, pour l'instant, bon, tu commences à avoir des idées sur tes logements. Je pense qu'il faut vraiment que tu partes sur tes envies d'ambiance. Et comment est-ce que tu mets en œuvre tes idées d'ambiance ?
Teddy Folly, Timothée Bayvert, Gilles Nonclair.
Cette année, on a reçu un mail au début de l'année nous disant on recherche 4 ou 5 moniteurs pour le programme Égalité des Chances. Et voilà, je me suis proposé, sans savoir tout à fait de quoi ça retournait. On avait une bonne description dans le mail, mais c'est en discutant avec l'administration qu'on en a appris un peu plus là-dessus. La première réflexion, c'est je suis passé par là, et moi-même, en première année, j'avais eu déjà un petit peu de mal à m'intégrer, surtout durant les premiers mois. Les premiers mois sont assez difficiles, c'est une ambiance assez particulière, c'est une organisation particulière. Voilà, comment est-ce que je pourrais faire pour aider un jeune qui va vivre peut-être les mêmes choses que moi ? C'est vrai que le côté prendre des élèves qui sortent de ZEP, on pourrait se questionner dans le sens où ces élèves-là ne sont pas toujours en plus grande difficulté que d'autres. Par contre, d'aller voir des élèves qui sortent de bacs qui ne sont pas des bacs généraux, donc comme vous avez fait, ça c'est intéressant parce que ce sont des bacs qui sont très très formalisants, disons, très spécialisants, et de pouvoir les ouvrir vers autre chose, c'est aussi pas mal. Ça peut être une ouverture intéressante.
Les sections, c'est le fait de venir vers les bacs pro, c'est aussi bien parce que on n'est pas forcément
très bien vu.
Ouais, et puis voilà, pour les écoles d'archi, je sais que j'avais demandé des écoles où on m'a complètement dit non, en bac pro on prend pas. Du coup, c'est bien de montrer qu'on est aussi capable, nous, d'aller en école d'architecture. Et je trouve ça bien qu'il y ait des écoles comme Bordeaux, Strasbourg ou d'autres écoles qui prennent des bacs pro, parce qu'il y en a, pas mal qui sont fermés à ça. Et je trouve ça dommage quand même, parce qu'on a, quand même des capacités. Parce qu'on...
Ça nous remet un peu en valeur.
Ouais. Donc nous, ils sont venus dans notre lycée. On en a entendu parler par nos professeurs ou par l'administration. Après, on a eu donc ces élèves qui sont venus et qui ont fait une intervention dans notre lycée en nous expliquant ce que c'était le programme. Et après, on avait des fiches d'inscription, donc le concours à passer pour pouvoir faire ce stage. Et ouais. Après, on a fait le concours et ils ont sélectionné 30 élèves sur combien de...
100, 150 personnes à postuler pour ce stage. Et ouais, du coup après ils en ressortent une trentaine, et pour justement, enfin on va dire qu'on a un mini concours, un petit écrit un peu sur notre motivation justement à intégrer les écoles d'architecture, et une bonne entraînement.
Je m'appelle Martin Chesneau, je suis architecte et directeur de cette école. La première étape, c'est d'abord d'avoir des lycées partenaires qui vont être nos relais pour identifier les jeunes susceptibles d'accéder à ce programme. Donc nous avons deux lycées partenaires. Ces lycées, ce sont avec eux que nous identifions. Donc nous faisons d'abord l'information. Ils essayent de nous aider à trouver les personnes les plus aptes à suivre ce programme. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'il y a une sélection, qui est une sélection collective, qui se fait par l'ensemble des écoles partenaires, et puis la fondation et le ministère. Une fois que la sélection est réalisée, il y a une invitation des jeunes à un stage qui se déroule alternativement dans une des écoles. Cette année, c'était à l'école de Bordeaux, donc on a eu le plaisir de voir en direct et d'accueillir en direct ici la trentaine de jeunes qui participent à ce programme. Où on leur fait là découvrir ce qu'est l'architecture, ce qu'est la conception, l'acte de conception, ce que sont les métiers de l'architecture, ce que sont les acteurs de l'architecture. Et donc ils ont une semaine avec un programme qui alterne entre des visites, des rencontres, des conférences, et puis un premier travail de conception. Donc on les a fait travailler sur la conception d'une cabane dans le bois qui se situe juste à côté. Voilà, donc ça c'est l'étape du stage qui est fondamentale, parce qu'ils se rendent compte, de leur, de leur intérêt ou non au final pour cette discipline. Ils sont dans une dynamique et une émulation collective. Ils rencontrent des enseignants qui sont là pour les accompagner vraiment. Ils ont des jeunes tuteurs, des étudiants qui sont là aussi pour leur parler de comment ça se déroule. Donc il y a une vraie, à ce moment-là, quelque chose qui se passe, qui est assez magique. Et puis en général, ça se termine extrêmement bien. Tout le monde est très très enthousiastes et donc ça leur donne de la motivation extrêmement forte pour pouvoir postuler à l'entrée aux écoles.
Et donc quand ils sont arrivés là pour égalité des chances, donc on les a amenés sur le terrain, on leur a dans la forêt derrière, en disant on va faire des maisons de randonneurs où on pourra dormir, se poser, manger.
Brigitte Bodolini.
Se laver éventuellement, vous verrez. Et choisissez vos lieux et puis prenez des matériaux. Et après, on les a amenés à un atelier avec les moniteurs. On a fait des groupes qu'on avait mixés avant pour que ce soit quand même mélangé à tous les niveaux. Et ils ont commencé à fabriquer les choses. Et ça allait... Je pense que ça les étonnait, mais ça les amusait beaucoup. Parce que rien n'était acquis et il n'y avait pas de solution absolue. Et ça a bien marché, je crois, parce qu'ils étaient assez joyeux de fabriquer leurs trucs. Et il y a eu l'intéressant dans l'histoire, c'est quand on a autant de solutions que d'individus, ou enfin autant de projets, pas de solutions, de projets que d'individus. Alors j'espère, il faudrait que vous ayez accès aux photos, mais alors on est allé... De la cabane ronde, suspendue comme une espèce de nid d'oiseau avec des grandes ficelles, etc., qui se détachaient du sol parce qu'il fallait se protéger, à celle qui s'enterrait, qui était comme extrudée, tu vois, du sol, comme une espèce de relief dans lequel on allait pouvoir s'abriter, se promener, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu de tout. Il y a eu plein de matériaux. Il y a eu des tressages. Il y en a qui se sont amusés à les tresser parce qu'ils avaient pigé quelque chose de la lumière et du comment on pouvait s'abriter sans être complètement dans le noir. Comment le soleil pouvait jouer avec les feuillages. Comment la cabane pouvait reproduire quelque chose de ça. Il y en a qui étaient, comme il y avait un ruisseau, qui était à cheval, qui jouait aussi avec le bruit. Et comment ça peut bercer, monter, descendre. Là, c'était très, très créatif, très joli. Ils se sont bien débrouillés. Et après, on les a mis en situation de rendu, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire un atelier. Et ils présentent ça à un jury. Donc, si c'était vraiment. Ça les a bien amusés, je crois, les jurys aussi. C'était très. Mais c'est intéressant comme expérience. Parce que c'est encore une autre. C'est un métier qui a un côté un peu mythique. Tu vois. En plus, maintenant, c'est très médiatisé. Il y a des têtes de pont, et c'est tant mieux. Et l'architecture du quotidien, elle est pas forcément médiatisée. C'est ton propre chemin, avec tes découvertes, tes hésitations, etc. Mais ça a un côté magique quand même. C'est un métier privilégié. Enfin. Je trouve, même s'il est difficile. Et ce processus-là, du fabriquer ça, c'est. Ouais, c'est extraordinaire quand même. C'est assez joyeux. Je pense qu'ils ont goûté à ça. Et en même temps, tout ce côté mythifié, ça le met à distance. C'est de plus en plus, je pense, difficile de rentrer. Il y a des concours. Nous, quand on est rentrés, toute ma génération. Tu posais un dossier, tu rentrais, tu avais envie de le faire, tu le faisais. Tu voulais mettre 10 ans, tu le faisais en 10 ans, en 15 ans, tu le faisais en 15. Maintenant, c'est beaucoup plus réglementé dans le temps et dans le système d'entrée. Et on en fait souvent des études, je dirais, techniques, mathématiques, il faut le bac S. Alors que non, un littéraire, il est tout à fait apte et au contraire à raconter ça, imaginer ça, c'est tout le monde peut. Et eux, je pense que ça leur a dédramatisé à ces enfants, qui se seraient dit que c'était pas pour eux. Mais c'est bien de remettre aussi les pendules à l'heure. Parce que moi, ça fait que 15 ans que je suis là, mais en 15 ans, je trouve que ça c'est pas... Comment je pourrais dire ? Pas une histoire d'ascenseur social, c'est une histoire ou de moyens ou d'oser. Enfin, ça s'est fermé, si tu veux, l'éventail, voilà. L'éventail des personnalités et l'éventail social des étudiants qui viennent là, c'est rétréci.
Xavier Lébat.
Alors, je pense que si on fonctionnait avec un système... académique de pensée, je pense qu'on pourrait avoir une ségrégation sociale très forte. C'est-à-dire qu'on pourrait présupposer qu'un jeune de 18 ans qui rentre à l'école après le bac, qui a voyagé, qui a lu, dont les parents sont un peu initiés, écoute les radios qui vont bien, etc., on peut imaginer effectivement qu'il a une prédisposition, une faculté, une aptitude supérieure. On peut imaginer ça. L'enseignement qu'on mène, en tout cas moi, c'est comme ça que j'essaye de le mettre en place, comme je l'évoquais précédemment, d'entrée de jeu, c'est-à-dire dès le premier cours de première année, il remet à plat le système de valeurs. C'est-à-dire que, une fois de plus, l'apprentissage de l'espace, c'est de même niveau d'intensité, mais aussi de basculement dans l'inconnu que la lecture et l'écriture. Et donc, bien sûr que la culture, ça aide. Mais on a une approche qui est d'abord un peu intuitive et empirique de l'espace. On le tend, on le tord, on l'étire, on le fabrique presque avec ses mains, avec son corps. Et donc, ça a plutôt tendance à niveler socialement. Hein. Donc, il y a une espèce de... Les repères traditionnels ou académiques s'estompent au profit d'une sorte d'énergie, de désir de faire, d'appétit d'espace.
Donc on parle du quartier des bassins à flots. On doit faire projet sur la partie des radoubes, donc au bassin à flots.
Alors, le projet est situé dans un quartier en évolution avec un tissu d'habitation très dense, comme on peut voir sur la maquette de site. Du coup, j'ai voulu qu'il reflète le quartier en créant un espace d'entre-soi assez intime et non pas un monument. C'est pourquoi le projet est presque au niveau de l'horizon pour qu'on le découvre en avançant, comme quand on découvre l'intérieur des radoubes. Étant donné que le projet est situé dans les radoubes et à proximité des bassins à flots, j'ai fait le choix de garder ce rapport à l'eau en fabriquant l'espace de célébration, donc dans le plus grand des radoubes à droite, en hauteur au-dessus de l'eau, ce qui fait un espace unique autant dessous que dedans. Je me suis inspirée aussi pour la forme de l'espace de célébration du nouveau musée cantonal des Beaux-Arts et pour le bassin de la base sous-marine.
Alors bonjour, je m'appelle Ziad et j'ai décidé de faire des études d'architecture car c'est une profession que j'ai toujours appréciée, que j'ai toujours voulu faire depuis très très jeune, en découvrant petit à petit ce qui se faisait dans le monde, ce qui se faisait autour de moi. Et que ça soit dans mon pays d'origine ou en France. J'ai décidé de faire ce métier-là parce que quand j'étais tout petit, j'étais très très proche avec mon grand frère qui a 6 ans de plus que moi et qui possédait à l'époque un jeu de construction.
Il s'appelait comment ce jeu de construction ?
Les Sims. Et pour moi, je trouvais ça... Enfin, c'est un jeu de construction virtuel. Et pour moi, je trouvais ça impressionnant, incroyable de pouvoir faire ça avec la technologie. Et du coup, je voulais recréer tout ça avec des boîtes à chaussures. Et ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux et d'avoir un regard. Et en regardant ce qu'il y avait autour de moi lorsque je me promenais avec mes parents, je regardais les maisons, comment elles étaient construites, les couleurs. Et j'essayais de reproduire... mais mon imagination en maquette. Et un matin, ben, je me suis dit, je suis descendu voir ma mère et lui dire, maman, je vais faire architecte. Et j'avais 9 ans. Mes études primaires et collège se sont assez bien passées. Mais en regardant les livrets de lycée, j'ai vu qu'à Blanquefort, une nouvelle section se créait. C'était un bac pro en 3 ans et c'était technicien du bâtiment, assistant en architecture. Et quand j'ai vu ça, je dis ah, mais c'est vraiment parfait parce que c'est ce que je veux faire. Et on était 23 lycéens à être sélectionnés. Ensuite, j'ai eu un très très bon niveau, mais j'avais des doutes sur l'admission pour entrer en école d'architecture parce que je me disais que un bac pro, c'est un niveau qui n'est pas très élevé et les écoles d'architecture, généralement, ils prennent souvent des bacs S ou bacs ES. Et j'ai pu intégrer la première STI directement, de passer en seconde professionnelle en bac STI, en bac technologique. Vu que je suis de Bordeaux, quand je passais devant l'école, je rêvais et je me disais, ah, j'espère que je vais rentrer dans cette école. Ou même des fois, je m'imaginais les entretiens avec les professeurs pour l'admission en école d'architecture.
Vous les imaginez comment ?
J'étais devant le miroir, tout petit, je me disais, je m'imaginais les questions qu'ils pouvaient poser. Et voilà, je me faisais mes petits films.
Et le programme Égalité des chances, comment vous en avez entendu parler ?
Depuis la seconde. Au moment où je suis arrivé en terminale pour pouvoir faire ce stage, et bien, j'ai direct sauté sur l'occasion, j'ai rempli les fiches et tout. C'était une sorte de lettre de motivation avec plusieurs questions et demander aussi de projets ou des dessins.
Maintenant, vous poursuivez vos études. Vous en êtes aussi content que quand vous en rêviez ?
Oui, bien sûr. Hein. En fait, je me dis que je suis dans mon environnement. En fait, c'est ma maison, c'est mon foyer ici. Et quand je viens à l'école, c'est que j'ai l'impression de venir dans une agence d'architecture et travailler sur un projet, réfléchir avec les étudiants qui peuvent être les collègues et le professeur qui peut être le client. Voilà.
J'étais à l'école primaire, j'étais en centre d'activité ou autre. J'avais une copine qui me disait, moi plus tard je serai architecte.
Fanny Gerbeau.
Mon mari sera maçon, le copain sera électricien et autres. Et le premier truc que je m'étais dit, c'est, mais architecte, je pourrais jamais penser l'être. Et j'y repense encore un peu aujourd'hui en me disant que c'est une profession, clairement, qui était briguée trop haut pour moi. Parce que mes parents n'ont pas cette ambition non plus. Dans ma famille, il n'y a pas eu forcément de longues études où ce n'était pas de mon côté. Et voilà, il ne fallait pas non plus fallait chercher la sécurité, il ne fallait pas aller trop haut non plus et prétendre être plus important. Et finalement, j'ai fait une thèse, mais ce n'était pas quelque chose qui était donné, vraiment. Et c'est toujours quelque chose avec quoi je me bats un peu. Savoir à quoi on peut prétendre en fonction de ses origines, c'est un peu le double déterminisme, la Zola. Ça reste quand même présent. Donc, s'il peut y avoir ce genre de programme qui aide à faire découvrir et qui justement un peu donne confiance ou dise, oui, pourquoi pas, il suffit d'essayer, venir comme ça par petites touches, susciter l'envie ou la curiosité, c'est bien. Voilà, parce que ça peut vraiment, ça peut changer aussi des orientations, quoi, casser un peu ce déterminisme, un peu qu'on intériorise beaucoup, je pense. Enfin, moi, en tout cas, c'était très conscient dans mes choix d'orientation. C'est pour ça que j'ai fait un bac STI à appliquer aussi. J'ai pas fait le bac général parce que j'avais peur que ce soit un peu trop difficile aussi, que ce soit trop généraliste et que du coup, je pourrais pas peut-être me replier vers un BTS ou quelque chose qui soit à plus court terme. Et c'était un peu le challenge de m'inscrire en archi en me disant, après 2 ans, il faudra quand même que je continue, j'espère être à la hauteur. Ça s'est fait petit à petit.
Olivier Chadouin, sociologue.
À l'égalité des conditions, alors si on le dit très brutalement, c'est aussi voilà les conditions matérielles d'existence. Bon, ça fait un peu marxiste de le dire comme ça, voilà, c'est au départ les conditions sociales dans lesquelles sont pris les individus tout au long de leur trajectoire. C'est-à-dire que c'est pas parce que à un moment donné on va avoir un dispositif qui dit ben tiens voilà nous sommes des grands établissements, on a un label, on vient chercher quelques individus. Que ça suffit. Je pense qu'il y a une politique plus profonde à mener sur l'ensemble de la trajectoire pour justement équilibrer les conditions d'accès à la culture, à la connaissance, etc. Voilà. C'est un peu plus compliqué, je pense. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce modèle des cordées de la réussite et égalité des chances ne soit pas intéressant. Moi, très honnêtement, quand bien même je suis dans un établissement où on le pratique, je reste à la fois bienveillant et méfiant vis-à-vis de ce modèle. C'est-à-dire que j'ai toujours un peu le sentiment que c'est une manière aussi pour les grandes écoles de se tailler une image. D'ailleurs, on appelle ça un label aussi. Hein. Alors, c'est à double tranchant. Voilà, il y a une image, mais il y a un effet réel, puisque, évidemment, oui, on accueille ces étudiants-là. Bon, c'est assez paradoxal, parce que, par ailleurs, on pratique une sélection qui est assez forte. C'est-à-dire qu'à partir de demain, on va faire des auditions ici. On reçoit pas loin de 700 possibles futurs étudiants. Et on va avoir une sélection avec la production d'un écrit, un oral. Et on s'interroge pas vraiment sur comment on sélectionne, qui on sélectionne. Enfin si, chacun de nous, chacun de mes collègues, moi je m'interroge, etc. Mais on sait très bien que quand on est dans ce genre de procédure, on a énormément de biais. Peut arriver, moi ça m'est arrivé, hein, on pratique ces sélections à deux, à l'oral par exemple, de se retrouver avec un collègue qui en toute bonne foi demande au jeune qui est devant lui si il a voyagé, est-ce qu'il a vu, etc. Et de tomber face à un étudiant qui a grandi dans le Lot-et-Garonne ou au Pays Basque et qui est resté et qui peut nous parler de l'exposition d'aquarelle qu'il a vue ou du musée, qui pourrait très bien en parler. D'ailleurs, ça peut être intéressant de se dire, bah, prenons ça au sérieux, voyons voir tout simplement comment il en parle. Mais le collègue jugeant que, évidemment, il ne connaît rien, hein, voilà, parce qu'il ne connaît pas les grands musées, les grandes institutions, il n'a jamais vu Arc en Rêve, une exposition autour de l'architecture, il n'est pas capable de citer un aéroport. Bon, donc là, on applique de fait, sans le savoir, une sélection qui est sociale sur ce type de trajectoire, sans le savoir, en se disant, bah, voilà, il ne connaît pas. Il ne connaît pas parce qu'il ne pouvait pas connaître. Travailler sur l'égalité des conditions et l'égalité des chances pour faire que la méritocratie fonctionne véritablement, ça supposerait de travailler sur l'ensemble du cursus. Alors, c'est discuté par plein de gens bien plus compétents que moi en sociologie de l'éducation pour en parler. Mais oui, il y a un travail à faire sur l'ensemble du cursus. Après, sur des grandes écoles comme les nôtres, je pense qu'en revanche, le fait, moi je l'ai pratiqué sur ce programme Égalité des chances, le fait que des types d'enseignement, des types d'études, des types d'enseignants qui paraissent si éloignés à des publics comme ceux des établissements avec lesquels on travaille, il y a un accueil qui est assez étonnant parce que ces jeunes-là se disent mais c'est pas vraiment pour moi ces études-là. Et là, on vient les voir, on discute assez simplement et surtout ils voient nos étudiants. Et donc là, il y a un effet génération qui fonctionne assez bien. C'est-à-dire que très vite, ils sont à l'aise et ils se rendent compte que finalement, c'est pas si inaccessible que ça, que il y a même un côté... ce qui marche bien avec les études d'architecture, c'est qu'il y a un côté bricolage aussi. C'est-à-dire que nos étudiants vont faire travailler ces jeunes-là sur avec eux, comme eux, ils travaillent. C'est-à-dire sur des découpages de maquettes, sur des brainstorming ou des tempêtes de cerveau. Enfin, voilà. Et il y a un côté ludique comme ça qui fait que ça passe assez bien et le côté générationnel fait que tout à ça peut avoir cet effet déclencheur. Bon, cela dit, c'est probablement pas suffisant, évidemment. Reste après qu'il y a cette sélection qu'on pratique à l'entrée. Voilà. Alors sur la sélection, c'est un débat dans les écoles d'architecture, c'est un débat qu'on a entre collègues aussi, hein, sur qu'est-ce qu'on sélectionne, comment on sélectionne, parce qu'après tout, l'étudiant qu'on sélectionne au moment du bac, qui va faire ses 5 ans d'études, qu'est-ce qui nous dit qu'au moment où on le sélectionne, il sera le même pendant la durée de ses études, enfin voilà, c'est très compliqué. Voilà. Alors, il y a quelques partisans de solutions radicales, moi j'en fais partie, qui consiste à dire, ben à ce moment-là, opérons par tirage au sort. puisqu'il n'y a pas d'égalité démocratique possible, puisqu'on ne peut pas trouver la bonne solution et le bon dosage, puisque les biais, on ne les maîtrise pas, eh bien le tirage au sort peut être une solution. Après tout, c'est une solution qu'on utilise en démocratie participative. C'était la base de la démocratie athénienne. Après tout, pourquoi pas ? Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, ça ne ravit personne. Hein, et je pense que ça ne se fera jamais. Mais c'est en tout cas une piste sur laquelle on peut réfléchir pour faire bouger des choses, en tout cas, de dire, mais puisque vous voulez vraiment l'égalité, plutôt que de faire une sélection qui, là, encore une fois, est ambivalente, hein, puisque la sélection, elle sert à sélectionner, oui, mais elle sert aussi à montrer que nous sommes des établissements sélectifs. C'est-à-dire à produire aussi l'image d'une école sélective et donc d'une grande école. C'est deux aspects, la sélection. Ça sélectionne et ça produit l'image du sélectif. Donc, après tout, si vraiment on veut dire qu'on veut aller vers une égalité possible, on sait que, en plus, qu'on sélectionne de manière aléatoire ou sur des tests, au fond, les taux de réussite à la sortie sont à peu près les mêmes.
Quand on voit des SDF encore dans Bordeaux, je sais pas, je pense que ça devrait pas exister en fait. Et je pense que tout ça c'est un problème de politique et d'argent, je pense sincèrement. Après, bon voilà, de toute façon c'est aussi pour ça que je suis pas trop calée à ce niveau-là, mais ça m'intéresse et c'est là-dedans que mes études vont se poursuivre, à mieux connaître les sociétés, les comportements et la politique notamment. Comment c'est géré en fait ? Parce que pour l'instant j'ai une vision très superficielle de ça. Et apprendre, parce que bon, pour l'instant je dis ça, mais ça se trouve dans 3 ans j'aurais changé de point de vue et je sais que c'est très compliqué. Tout ce qui est les collectivités, la région, tout ça, je sais que c'est très géré, enfin c'est très dur à gérer, pardon. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Et voilà, donc une ville gérée par les besoins, c'est on pense avant aux besoins, enfin des gens tout simplement, plutôt que de penser à l'argent et aux politiques quoi.
Ouais. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment vous le traduisez en termes d'urbanisme ou comment vous le traduisez en termes de pensée pour votre futur professionnel.
Ben ça, je sais pas encore justement. Voilà, non, mais c'est vrai, c'est des choses. Enfin, là, à l'école de Bordeaux, on apprend énormément de choses parce qu'on a de la sociologie, on fait de la philo aussi par intermédiaire. Enfin, que ce soit même en histoire de l'art, tout ça, bon, on apprend plein de choses, on découvre le monde tel qu'il existe et tel qu'il a pu être. Et arrivé là en troisième année, maintenant c'est un peu un moment charnière en fait dans les études parce que on commence à avoir des besoins, à justement des choses pour lesquelles on a envie de comprendre et qu'on comprend pas encore ou voilà qui sont assez superficielles, ce qui est mon cas pour le moment par rapport à ça en tout cas. Et c'est justement les études futures qu'on va faire ou en tout cas les domaines qu'on va choisir d'enseignement qui vont me permettre de me positionner par rapport à ça et de comprendre réellement ce que c'est. Parce que bon, là, aujourd'hui, c'est bien gentil de dire, voilà, les SDF, les machins, mais bon, concrètement, je sais pas comment ça se passe, réellement. Moi, c'est ce que je vois de mes yeux quand je rentre chez moi, et voilà, c'est tout. C'est comme les prostituées, quand il y a des nouveaux quartiers qui sont rénovés, notamment par rapport au niveau de la gare, parce que j'habite là-bas. Et donc, les prostituées derrière la gare et tout ça, bon, ben, c'est pareil, on fait que déplacer le problème, parce qu'il y a les nouveaux bâtiments, donc c'est quelque chose, maintenant, où elles n'ont plus lieu d'être, et elles sont juste déplacées plus loin. C'est voilà ce genre de choses en fait, ça c'est totalement lié à la ville et à la construction de la ville et au déplacement des populations et tout ça, ça c'est clair et net. Après concrètement, comment c'est géré, pourquoi, ça c'est des choses qu'il faut que j'apprenne encore, je sais pas encore. Je m'appelle Audrey, je suis en 3e année d'archi. Moi j'avais fait le stage égalité des chances quand j'étais au lycée, quand j'avais fait la section génie civil. Et donc là, en fait, il s'est trouvé que bon, je reste un petit peu en lien quand même avec les gens de la fondation. Et donc, il y avait besoin de moniteur. Donc, je me suis proposée. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, comme moi, j'avais fait le stage avant, d'avoir cet échange avec les étudiants et tout. Ça pouvait être sympa. Et au final, ils peuvent très bien voir. Enfin, là, moi, j'en suis arrivée et je suis rentrée en école d'archi. Je suis maintenant en 3e année. Donc, ça peut leur donner aussi une idée du parcours. Surtout que j'avais fait quasiment les mêmes formations qu'eux. Qui sont pas considérés comme l'élite S ou quoi, bon, même si maintenant c'est plus vraiment vrai. Mais donc du coup ça pouvait leur donner une bonne idée et c'était vraiment cool. En plus ils sont hyper motivés et tout, c'était vraiment sympa comme stage.
Tu as tissé des liens particuliers ?
Surtout en fait ceux qui étaient dans mon groupe, parce qu'en fait on était divisé en 4 groupes, donc il y avait 4 moniteurs. Quand on était en atelier, on travaillait surtout par groupe, par petit groupe pour que ce soit plus simple à échanger et qu'on puisse voir tout le monde et qu'on puisse discuter des projets. Et notamment deux personnes, il y a Jade qui est sur Bordeaux, qui est au même lycée que moi à Blanquefort. Et Grégory, du coup, que je vais héberger pour le concours, là, qui vient passer les concours mercredi. En fait, il arrive demain soir, parce qu'il passe le concours très tôt, le mercredi matin à l'école d'archi. Il passe à 7h, il me semble. Et du coup, je vais l'héberger chez moi, là, pour. Du coup, je vais l'accompagner un peu, comme il vit bien tout seul, sans ses parents, tout ça. Donc, du coup, je l'accompagne. Et je vais passer la journée avec lui pour les concours, s'il a besoin d'aide ou quoi. Bon, il y aura plein de monde ici, de toute façon, ils auront ce qu'il faut, mais voilà, comme ça, il sera pas seul et ça lui fera une petite épaule s'il a besoin de poser des questions ou ce genre de choses. Voilà, c'est les deux personnes avec qui je suis restée en contact, enfin, qui avaient besoin. Je les ai vus. Alors, Grégory, on est resté au téléphone parce que moi, bon, il habite un peu plus loin. Donc, ils m'ont appelé pour savoir, enfin, ils avaient des questions pour les concours, tout ça, enfin, des trucs, voilà, forcément, pour tout ce qui est les présentations, comment, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire ou pas, enfin, ce genre de choses. Et Jade, ben, je l'avais rencontré aussi une fois, là, il y a peut-être trois semaines maintenant. Pareil, pour avoir des questions comme ça sur les concours, comment ça se passe, voilà, ce genre de choses.
Donc aujourd'hui sont les journées d'admission. Donc nous allons recevoir par jury, sur différents jurys, quelques centaines d'impétrants sur le cursus architecture au sein de cette école. Donc il va s'agir de composer le futur groupe, la future promotion qui va nous accompagner sur les 5 prochaines années.
Vos impressions ce matin, c'est quoi ?
Mes impressions ce matin ? C'est comme toutes les années, c'est l'école est pleine de gens, ça me va très bien. Voilà. Rien de neuf sous le soleil.
Est-ce que c'est un bout de temps d'avoir à leur faire passer les oraux ?
Mais non, ce soir je m'enivrerai parce que c'est. On décide du sort de certains, donc ce soir je me prends un bain chaud et je m'enivre. Voilà, c'est ça. On a peut-être fait des erreurs ce soir, c'est ça le problème. Mais si vous avez 25 candidats et vous n'en sortez que 3, c'est. Comment faire ? Donc je m'enivrerai ce soir. J'aime pas ça, voilà. Pour vous dire franchement, j'aime pas ces moments où on est là pour choisir, on se trompe. Je pense qu'on ne fait pas les choses bien, mais je ne sais pas comment il faut les faire pour bien les faire. Voilà. Parce que le problème, c'est que les 2000 candidats, il y en a 2000 ici, mais il y en a 2000 dans toutes les écoles de France. Avant, moi, quand je suis rentré du temps des dinosaures, on choisissait l'école et je m'étais pas inscrit à Lille, à Marseille et autres. Voilà. Alors que maintenant, ils sont 2500 candidats en France pour 22 écoles. Donc, ils font le tour des jurys avec les parents qui accompagnent. Ça coûte un fric fou aux parents de déplacement. Parce qu'il y en a qui étaient déjà, les parents étaient déjà là hier soir pour repérer les lieux. Enfin, vous rendez compte de la. Enfin, je parle souvent de démarche et de responsabilité environnementale, mais là, c'est un gaspillage total. Et je pense qu'il y a certainement autre chose à faire, et mieux. Voilà, mais je ne sais pas comment il faut faire, voilà. Je n'ai pas la solution.
C'est quasiment en face de l'atelier 5. Tu sais, c'est au rez-de-chaussée.
En face de la bibliothèque.
Derrière, tu passes par derrière, là. Hop.
Derrière.
Tu passes le cépage en face des amphis 3 D'accord. et 2 et voilà, c'est là, bon, c'est affiché.
Ça marche.
Allez, faut y aller.
Tu sais, on les écoute surtout, on regarde comment ils se. On les écoute, ouais. Ils ont des choses. Et eux, ils sont tendus. Les pauvres. Quand ils arrivent, moi je leur dis qu'il faut se détendre, qu'on n'est pas méchant et que c'est la vie et qu'il y a des destins, des coups du sort et des chances. Puis on leur fait lire, ils ont fait un devoir, donc ils le lisent eux-mêmes, après on les laisse parler. Mais d'eux, de leur vie, pourquoi ils veulent faire ça? Mais les pauvres, eux, c'est terrible, hein. Surtout quand ils attendent comme ça au soleil. Ils vont finir comme des tomates séchées.
Mais est-ce qu'on
en
prévoit aussi un peu de raisin?
Charlotte, merci. Ouais, c'est dans les 5-6 premières. Ça va.
2 heures.
Ouais, 2 heures.
Ça va bien sûr.
Après 2 heures.
À peu près, ouais.
Tiens, prends un bonbon, ça va être un train, c'est ça ou.
Maintenant, j'ai pas de train.
Faut pas trop stresser, faut vraiment que tu t'habilles une discussion. Faut vraiment que ça soit des réponses un peu tac au tac, quoi. C'est vraiment une discussion que t'établis, c'est pas juste question-réponse, en fait. Normalement, faudrait que tu vois avec le prof, il va s'intéresser à toi, il va chercher un peu ce que tu veux, ta personnalité, découvrir et tout, donc y a pas de soucis. Faut y aller. Il n'y a pas la peine de stresser. Il faut être naturel et ça passe. Ça passe.
Ouais, d'accord, très bien.
Et bon courage.
Charlène, bonjour. Entre Charlène. Est-ce que Théo est arrivé? Est-ce que Thomas, Georges est arrivé? Thomas, tu peux me donner ton dossier dossier scolaire, s'il te plaît.
J'ai accompagné Grégory aujourd'hui.
Je suis venu hier soir à la gare de Bordeaux. J'ai passé pratiquement 7 heures dans le train. C'est assez épuisant parce que hier, j'étais à Nancy et avant-hier, j'étais à Montpellier. Donc c'est assez épuisant, quoi. C'est une semaine qui est chargée en train, toujours train. Et donc hier soir, j'ai dormi chez Audrey. Elle m'a hébergé parce que je l'ai appelé il y a 2 ou 3 semaines pour lui demander où est-ce que je pouvais être logé. Et puis du coup, elle m'a proposé gentiment de m'héberger chez elle. Et donc, en même temps, ça m'a permis aussi de parler un peu hier, déjà, des entretiens et puis de mon parcours un peu. Ça m'a un peu aidé, quoi, pour développer ce que j'allais dire aujourd'hui. J'étais un peu coincé dans la technique, vu que mon bac prépare plutôt de la technique que de l'artistique. Donc, c'était assez difficile de mettre des mots sur mes sentiments. Et Audrey m'a quand même un peu ouvert un autre langage.
C'est trop mignon.
Comment tu appréhendes l'oral, là ?
À l'oral, j'appréhende plutôt bien, vu mon entretien à Nancy qui s'était bien passé, et l'entretien qui s'est passé à Montpellier, ça s'est super bien passé. Donc je l'appréhende plutôt positif, d'après ce que Audrey m'a dit. Elle m'a dit qu'il fallait que je monte ma motivation, et puis que les jurés, ils sont assez... Enfin, ils sont bien, donc ça peut que être bénéfique, enfin je le sens plutôt bien mon entretien, quoi, d'après ce que Audrey me dit. Ils ont l'air cool.
Vous oubliez pas, s'il vous plaît, de m'amener une boîte de Bombec.
Oui, bah il y a Léna, mais je sais pas ce qu'elle fait.
J'ai rappelé tout ça.
Mais je crois qu'elle est garde. Léna, Bouti, vous êtes pour moi.
Un café.
Il faudrait 2 cafés, s'il vous plaît.
Les petits.
Du coup, j'étais pas à l'aise.
Ouais, c'est
mauvais. Ben, du coup, je sais pas.
Mais du coup, ils ont commencé à dire quoi?
Ben, ils m'ont demandé un peu mon ressenti ce matin de l'oral et de l'écrit. Ils m'ont demandé comment ça s'était passé et puis après il a directement enchaîné avec ma planche d'écrit, quoi. Et il m'a demandé par rapport à comment dire à la première AV de Buren dans le CAPC, il m'a demandé pourquoi j'ai pas développé le titre. Alors du coup pour moi c'était évident, il n'y avait pas assez de temps et puis il y avait 1h30. Mais donc c'est pas assez pour développer. En plus sur une page recto, on peut pas vraiment développer tous les détails.
Ça, ouais. Mais du coup il t'a pas parlé de ce que toi t'avais développé,
il a pas parlé de ce que moi j'avais dit, mais il a parlé.
Il est embrouillé sur autre chose, quoi. Voilà. Ce que lui par exemple aurait fait ou...
Il m'a demandé après pourquoi les autres œuvres ne répondaient pas à ce titre. Ils se sont pas présentés.
Eux se sont pas présentés? Pas du tout. Après, bon, c'est pas grave, c'est dommage, voilà, t'as pas eu un aussi bon ressenti qu'à Montpellier, c'est pas perdu pour autant,
non.
Mais...
C'est une chance, et puis du coup...
Mais bon, du coup, t'es déçu,
je l'attends. Non, je suis pas vraiment déçu, mais c'est que je suis un peu sceptique, quand même. Mais déçu, non.
Non, ouais, ça va.
Je sais que, bon, il y a des hauts et des bas, il y a des entretiens qui se passeront mieux que d'autres, et puis... Du coup,
quand ils t'ont demandé quelle école t'allais choisir ou quoi, ou laquelle en particulier, t'as répondu quoi?
Du coup, je leur ai répondu franchement, je leur ai dit Montpellier, ouais. Bordeaux, Strasbourg, ouais. J'aurais dit aussi Paris. Et je leur ai dit Nancy, mais donc du coup ils m'ont dit ah ben tu préfères Strasbourg. Alors j'ai dit ben non, pas forcément. Je me suis dit je préfère l'Alsace, c'est bien, mais à un moment j'aimerais quand même partir, changer, voir d'autres horizons. Alors ils m'ont dit ben c'est bien d'un côté ce que tu nous dis, et puis
bon, ok, ils avaient pas l'air très emballés en fait.
Non, franchement, ils étaient j'ai l'impression qu'ils étaient un peu blasés.
D'accord. Pourtant ça a duré longtemps l'entretien.
Ouais. Et ils ont vu que l'art, la photo et puis les voyages m'intéressaient beaucoup. Enfin, c'est mes centres d'intérêt.
Du coup, t'as développé un peu ça, ils t'ont posé des questions.
Oui, ils m'ont demandé d'où ça venait. Et puis du coup, j'aurais dit que c'était maman qui m'avait appris ça quand j'étais petit.
Ça marche. Donc, tu leur as pas montré tes photos?
Non, ils ont...
Ils ont pas demandé.
Bon, écoute.
Parce que j'aurais dit que j'avais mes photos dans le sac et puis ils m'ont dit, ah ben, on verra après.
D'accord. Ok, bon, bah écoute, on verra le résultat. Hein. Voilà.
Bah ouais.
Bon, mais ouais.
Non, faut avoir confiance. Bon.
Ok. Ça marche, ben. Je reste positif quand même.
Grégory a été reçu à l'école d'architecture de Strasbourg. Audrey est partie pour une année d'Erasmus à Bruxelles. Gilles et Teddy entament leur deuxième année. Et Ziad poursuit sa troisième année.
Dessiner le futur, je sais pas, un avion peut-être, parce que tout le temps voyager, j'aimerais bien être tout le temps dans l'avion.
Bon, du coup, faut que je dessine. Voilà, ça c'est moi. Voilà, ça c'est mon auberge et ça c'est mes chèvres. Voilà. Oui, parce qu'après dessiner la ville future sans spéculation, c'est un peu compliqué.
Vous nous donnez cette page?
Ouais, bien sûr.
Vous signez? C'était Fondation Culture et Diversité, le programme Égalité des chances en école d'architecture. Avec Audrey Béchemin, Timothée Beyver, Ziad Bellage, Teddy Folly, Grégory Heinrich, Gilles Nonclair, Brigitte Bodolini, Pauline Boyer, John Broder, Olivier Chadouin, Fanny Gerbeau, Xavier Lébar, Karine Louilot, Dominique Servos, Jean-Jacques Soulos, Martin Chenot et Marie-Elisabeth Dubourteau-Mieux. Merci aux étudiants et aux équipes pédagogiques et administratives de l'ENS d'architecture et de paysage de Bordeaux pour leur accueil. Mixage Jules Garand. Un documentaire de Marianne Bello et Guillaume Baldi pour Sur les docks.